Bonjour et merci de nous être fidèles tous les week-ends. Nouveau générique pour l'émission, mais vos rendez-vous du samedi avec au sommaire du grand face-à-face jusqu'à 13h, la semaine des humoristes, le duel Natacha Polony, Raphaël Glucksmann et puis le débat de la semaine dans une vingtaine de minutes avec notre invité. Il est géographe, essayiste, sans doute l'un des intellectuels les plus influents aujourd'hui. Ses livres sont lus de près par les politiques de l'extrême droite jusqu'à la gauche et on lui doit notamment d'avoir analysé ce lien entre le vote Front National et l'éloignement des grandes métropoles, la vie dans la France périphérique et la relégation des classes populaires. Il poursuit son analyse de la dynamique populiste en France mais aussi dans les pays occidentaux et ce qu'il décrit comme la panique des bourgeoisies dans un essai qui vient de paraître, No Society. Christophe Guy, lui, nous rejoindra dans quelques minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Vous êtes splendide en couverture du magazine L'Obs cette semaine. Beau, rayonnant.
Mais oui, merveilleux, et... avec Jean-Pierre Le Goff en débat.
Quasiment sur... souriant.
Ouais, ça m'arrive de temps en temps.
Vous faites partie des Français qui se plaignent ?
Constamment, mais je pense que là, s'il se coltine les Français qui se plaignent, il va avoir 99% de la population contre lui. C'est quand même notre grande tradition nationale.
Voir 99...
Mais se plaindre n'empêche pas de sourire.
C'est vrai.
Et puis, il y a une différence entre se plaindre et exprimer sa colère. Je pense qu'il confond un petit peu les deux.
On va en parler, évidemment, et avant de revenir avec vous sur l'actualité, la semaine vue par les humoristes de France Inter est mise en ondes par François Audouin. Et cette semaine, c'est évidemment le feuilleton Gérard Collomb qui a dominé l'actualité, feuilleton qui a passionné Daniel Morin.
Emmanuel !
Oui ?
Je vais partir !
Oui, bonne idée, va faire un tour, ça fera du bien à tes formes.
Non ! Je vais partir pour nouveau ! Pour toujours !
Quoi ? Tu me largues ?
Oui ! Je pars !
Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?
C'est pas toi ! C'est moi !
Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça ?
Tu pars en Espagne avec Manuel Valls ? Non !
Si ! Tu vas aller faire le coup à Barcelone ! Je sais que tu kiffes le flamenco !
Non ! Je te jure, je rentre à Lyon. Voilà ma laine de démission. Non !
Mais pourquoi Gérard Collomb a-t-il démissionné ? Tanguy Pastureau a trouvé quelques éléments de réponse.
Place Beauvau, toute la journée, on parle d'attentats, d'islamisme, de l'album de Zouk d'Evangeli, des menaces qui pèsent sur nous. À un moment, si on se détend pas, on fait un burn-out. Et en plus des jeunes idiots là qu'il traitait de papy confiture alors qu'il a 71 ans. Il n'est pas en fin de vie dans un EHPAD à regarder TPMP pour Isabelle Morini-Bosque. On apprend que Brigitte ne lui adressait plus la parole depuis 2 mois. Elle était fâchée. Mais Collomb est un mec sensible et cette ambiance pourrie qui est la même que dans une start-up, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est cool parce que les gonzes jouent au baby-foot à la pause alors qu'en fait ils rêvent de vous trucider avec la barre des attaquants, et ben Collomb n'a pas supporté.
Mardi, Emmanuel Macron refusait la démission du ministre de l'Intérieur. Opération sauvetage de Gérard Collomb dans le 7-9 avec Charline Vanhoenacker.
On n'a jamais vu ça. Un ministre de l'Intérieur obligé de négocier lui-même lors de sa propre prise d'otage. Gérard, si tu nous entends, tiens bon, apparemment c'est ok, c'est fait. Enfin, on est en train de vérifier quand même pour être sûr. On est tous derrière toi, Gérard. Mais on t'avait dit de pas procéder comme ça. Regarde Nicolas Hulot, il a fait ça ici. Il avait prévenu personne, ça s'est réglé dans la seconde. Écoute, GG, là je suis avec Léa et Nicolas. On est prêt à t'accueillir dans la matinale. Hein, Léa, on accueille Gérard, hein, on l'accueille. Hein. Si tu démarres de la place Beauvau maintenant, tu peux être chez nous en studio dans quoi ? Combien de temps, Nicolas ? Ça roule à cette heure-ci 15 minutes ?
Max,
ouais.
Max.
Ouais,
ouais,
bouge pas,
c'est
Gérard.
Jouable.
Bouge pas, on fait un point route. 15 minutes, Gérard, 15 minutes. Viens en trottinette électrique, tu peux prendre les couloirs de bus, tu peux monter sur le trottoir. Collomb démission ! Oh là là, quand je pense que quand on dit ça maintenant, c'est pour t'aider, c'est vraiment fou, hein, c'est fou. Hashtag free Gérard Collomb.
On connaît la suite, il est quand même parti. Une note du service de presse d'En Marche demandait aux parlementaires de ne pas commenter l'actualité du gouvernement. Guillaume Meurice a malgré tout tendu son micro dans les couloirs de l'Assemblée.
Sandra Motin, députée de La République En Marche de l'Isère, qui a bravé les consignes et qui est venue salle des quatre colonnes parler avec des journalistes et qui a accepté de me répondre, chapeau. Sandra, elle est très contente que Gérard reprenne son poste à la mairie de Lyon.
Tant mieux, ça va lui donner le temps d'amener avec lui une nouvelle génération, parce que c'est aussi ça notre promesse de transformation.
Oui, parce que là, 71 ans, on attend un peu la nouvelle génération.
Mais ça va être un super chef de file.
Et pourquoi il laisse pas sa place directement à quelqu'un de plus jeune ?
Parce que les Lyonnais, ils l'aiment. Et donc, on a envie de le retrouver, lui. Et on aura encore plus confiance dans une nouvelle génération si c'est lui qui a leur tête.
Évidemment, pour renouveler la classe politique, c'est il nous faut des mecs de plus de 70 ans. En Afrique, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En France, un vieux qui meurt, c'est 12 mandats électoraux qui se libèrent. Chacun sa culture.
Et en pleine crise politique, Frédéric Becbédé a donné de précieux conseils au président de la République.
Cassez-vous tous, putain ! Mais vous êtes à bord du Titanic, les gars !
Je voudrais m'adresser solennellement à Emmanuel Macron, maintenant. Il est encore temps d'imiter vos ministres. Monsieur le Président, démissionnez, vous serez culte. L'important, c'est d'avoir été élu. Ça, c'est fait. Et maintenant, vous avez encore la vie devant vous. Il est temps de devenir Barack Obama, donner des conférences aux quatre coins du globe, finir ce roman que vous aviez commencé à Henri IV. Ben oui, et je voterai pour vous au prix Renaudot. Cela dit, si vous tenez à rester, faites comme Chirac. Le moment est venu de dissoudre l'Assemblée nationale. Comme ça, il y aura une élection législative, ce sera la cohabitation, vous vous tournerez les pouces pendant 3 ans, vous redeviendrez populaire et vous serez réélu en 2022. Elle n'est pas belle la vie ? Merci qui ?
Merci Freddy !
Il vous en prie.
C'était la semaine des humoristes de France Inter. Merci Freddy. C'était un bon conseil que donnait Frédéric Becbédé au président de la République. Gérard Collomb a fait rire, Emmanuel Macron aussi. On va voir s'ils vous ont tous les deux inspiré. Le grand face-à-face continue avec le duel.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Et une question, est-ce que nous sommes face à une crise politique ? La question peut vous sembler absurde, mais écoutez ce qu'on disait au gouvernement. Les éléments de langage étaient visiblement prêts bien avant la démission de Gérard Collomb.
Rien de ce qui se passe depuis 48 heures ne s'apparente à une crise politique. L'État fonctionne, le gouvernement est parfaitement à sa tâche. Ce que nous traversons est lié à des sujets strictement personnels et il a appelé chaque membre du gouvernement à savoir s'élever au-dessus des intérêts particulier.
Je ne crois pas qu'il faille voir des crises politiques là où il n'y en a pas. Vous savez, les crises politiques, c'est quand une majorité qui a été élue pour faire une réforme, par exemple, renverse un gouvernement. Ça c'est arrivé en 62 pour le président de Gaulle avec Georges Pompidou.
On vient d'entendre le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux et le ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin. Pas de crise politique, Natacha ?
Non mais c'est on est dans l'ordre du comique en effet. C'est-à-dire, paradoxalement, c'est parce que ce sujet-là, la démission de Gérard Collomb, ne se fait pas sur un sujet politique qu'il y a crise politique. C'est-à-dire que des démissions de ministres, il y en a eu. Quand Chevènement claque la porte parce qu'il récuse la guerre du Golfe alors qu'il est ministre de la Défense, on a un vrai débat politique. Là, ça n'est absolument pas ça. Et c'est absolument ahurissant de se dire que la police, aujourd'hui, dans l'état où est la France, n'a pas de ministre, parce que c'est pas le Premier ministre qui va réellement faire le boulot.
Il fait l'intérim. Donc,
oui, d'accord. Donc, on a bien compris. Pardon, mais c'est un boulot à temps plein. Hein. Le ministre de l'Intérieur, ça nécessite quelques... Bon. Et on s'aperçoit donc qu'il y a une espèce de déliquescence où finalement les intérêts privés, les fâcheries, les réactions à une affaire Benalla qui est devenue totalement délétère et qui semble détruire toutes les relations du président de la République avec ceux qui lui sont fidèles, on a l'impression que tout ça est en train d'abîmer ce qui fait le cœur de la République, de la machine de l'État. En cela, c'est une crise politique absolument inédite.
Mais Raphaël ?
C'est le problème de la post-politique. En fait, on se rend compte, et c'était clair depuis le début, que les gens qui composaient En Marche et qui sont entrés au gouvernement étaient tenus par leur adhésion à la figure d'Emmanuel Macron, étaient tenus par un leader. C'est comme ça que s'est structuré ce mouvement, qui d'ailleurs porte ses initiales. Et quand le leader semble tout d'un coup plus faible, eh bien on se rend compte que l'absence d'idéologie politique cohérente, l'absence de ligne, l'absence de parti rend les choses extrêmement chaotiques et les rats quittent le navire. Et il y a là une revanche de la politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas...
Revanche de la politique.
On ne peut pas tenir dans le temps simplement sur l'adhésion à une figure du leader. Et c'est le problème de tous ces nouveaux mouvements. C'est-à-dire que pour la conquête du pouvoir, c'est absolument génial de pouvoir agréger des gens depuis Robert Rue jusqu'aux plus libéraux des commentateurs et des intellectuels et des politiques. Mais en réalité, quand on exerce le pouvoir, il faut avoir une forme de cohérence idéologique. Il faut accepter que la politique, eh bien, ce n'est pas simplement un rassemblement amoureux. Parce que quand l'amour part, eh bien, reste quoi ? Le bordel.
C'est beau. C'est triste, mais c'est beau. C'est pessimiste, mais c'est beau, Natacha.
C'est lucide. C'est lucide. Et ce qui est profondément inquiétant derrière, c'est que nous sommes dans un contexte où tous les chefs d'État et de gouvernement des pays démocratiques, des grands pays démocratiques, sont aujourd'hui affaiblis. Regardez Angela Merkel qui tire sans fin son pouvoir et on va s'apercevoir de son véritable bilan, c'est-à-dire que c'est un bilan totalement nul, qui a creusé la crise en Europe. Theresa May qui est totalement empêtrée dans un Brexit qui, quelles que soient les décisions qui seront prises, sera catastrophique parce qu'il n'a pas été pensé, parce qu'il n'a pas été préparé, parce que ceux qui l'ont voulu n'ont en fait jamais réfléchi à ce qui allait réellement se passer et ceux qui sont en train de, là aussi, pour les punir de prôner le hard Brexit de l'autre côté, ne se rendent pas compte non plus concrètement de ce que ça va poser comme problème. Ne parlons même pas de Donald Trump. Donc nous avons aujourd'hui des politiques qui sont jetables et qui n'ont plus prise sur les événements. Cela signifie
enfin des politiques jetables, quand on prend le cas de Gérard Collomb, c'est lui-même qui s'est jeté.
Oui, mais je parle d'Emmanuel Macron. Je parle d'Emmanuel Macron qui, au bout d'un an et demi, se retrouve dans une situation totalement délétère où l'on peut se demander exactement en quoi il va peser sur la marche des événements, alors que nous entrons dans une phase d'élection européenne où il faudrait essayer de penser l'Europe, de penser la façon dont nous pouvons retrouver une souveraineté, tout ce genre de choses qui sont des sujets essentiels et qui ne seront pas traités parce qu'on va être à temps plein sur la question de savoir comment on peut sauver les meubles et essayer d'agiter l'épouvantail populiste pour masquer l'absence totale de cohérence idéologique.
Mais Raphaël, mais il y a un contre-exemple à cette évanescence du pouvoir et à ce délitement du pouvoir dans les démocraties occidentales. Et malheureusement pour moi, et puis je pense pour beaucoup d'entre nous, le contre-exemple, il vient d'un bord politique et idéologique qui je juge catastrophique, c'est l'Italie. Aujourd'hui, il y a un leader politique qui s'affirme en Europe, c'est Salvini. C'est lui qui a une idéologie, qui mobilise les masses, qui assoit un pouvoir autoritaire, qui met en prison un maire, qui affirme sa domination sur la scène politique. Et donc là, il y a quand même, à mon avis, une forme d'irresponsabilité chez les leaders occidentaux, qui est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que cette période est extrêmement dangereuse. Et que donc, il va falloir assumer une ligne politique cohérente et arrêter, en fait, de penser la vie politique en termes de pure com. Ça marche. Réellement, ça marche quelques mois. Mais ensuite, il faut structurer un mouvement, structurer un parti, construire une ligne politique claire. Et cela, malheureusement, c'est
oui,
parce qu'il est en train de se passer.
Construire une ligne politique claire nécessite de ne pas simplement s'affoler parce qu'il y a des méchants au pouvoir dans un pays, mais d'essayer d'analyser. Regardez par exemple ce qui se passe dans ce bras de fer entre l'Italie et Bruxelles, où l'Italie essaye, à propos du budget, donc Matteo Salvini et Di Maio, en fait, font ce truc ahurissant, c'est-à-dire qu'ils appliquent le programme sur lequel ils ont été élus. C'est un truc de dingue. Et donc, Bruxelles leur explique que ça n'est pas possible, puisqu'évidemment, ça ne rentre pas dans les clous. Cela dit, si vous regardez réellement les chiffres économiques de l'Italie, que ce soit le déficit, que ce soit la façon dont est détenue la dette par les Italiens d'eux-mêmes, donc moins dépendants des marchés, que ce soit le commerce extérieur, l'Italie est un pays qui reste industrialisé, ce que nous ne sommes plus. Eh bien, en fait, le pari budgétaire de Di Maio et Salvini n'est pas si délirant que ça. Et le fait de les montrer du doigt, d'expliquer que c'est le mauvais élève, que c'est catastrophique, qu'ils ne seront plus dans les clous, c'est de l'idéologie pure. Donc tant qu'on répondra à de la politique par de l'idéologie pure, en faussant les réalités, eh bien on fera monter Matteo Salvini et Di Maio.
Là vous parlez du budget, mais la popularité de Matteo Salvini, elle repose absolument pas sur son budget. La popularité de Matteo Salvini aujourd'hui en Italie, elle repose sur un sujet monothématique, qui est d'exciter les foules italiennes contre l'arrivée des migrants.
C'est pour ça qu'il y a le mouvement 5 étoiles aussi dans ce gouvernement.
C'est ça qui fait sa force et c'est pour ça que le mouvement 5 étoiles est en train de se faire complètement dévorer par la Ligue et que si vous prenez aujourd'hui les sondages, les rapports de force sont complètement inversés dans cette coalition parce que ce qui est le moteur, c'est une idéologie d'extrême droite. Donc je veux bien qu'on désidéologise et on en discutera tout à l'heure.
On va y venir avec notre invité Christophe Guilluy tout à l'heure.
Qu'on désidéologise l'extrême droite, mais en réalité, on a quand même un affrontement idéologique à mener et donc il ne s'agit pas de pousser des cris d'orfraie et de chanter la moraline, mais de comprendre qu'il y a un affrontement idéologique à mener.
Le grand face-à-face sur France Inter.
Et un anniversaire, celui de la 5e République, 60 ans ces jours-ci. Écoutez cette archive du général de Gaulle. C'était le 4 septembre 1958, place de la République à Paris, et il présentait le projet de constitution de la 5e République.
Au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national
élus par les citoyens qui ont un mandat public, qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité, qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui.
Et 60 ans après, jeudi, cette semaine, Emmanuel Macron était à Colombey-les-Deux-Églises.
Ce ne sont pas les péripéties du quotidien qui doivent décider pour une nation. Si on regarde tous les jours les péripéties du quotidien, avec tout ce qui se passe, les sondages, les ceci, les cela, on n'avance plus, on ne fait plus rien. La force de cette Constitution, c'est qu'elle permet d'avancer pour qu'ils décident de l'expliquer aux Français quand ils l'ont choisi. Et elle permet d'éviter la tyrannie de l'immédiateté, qui est une absurdité contemporaine.
Natacha, 60 ans, c'est bientôt l'âge de la retraite ou c'est au contraire le signe de la maturité, de la solidité ?
Non, je pense qu'on s'est arrangé pour abîmer et faire agoniser cette Ve République, qui a une cohérence, qui est celle expliquée par De Gaulle, et qui repose, il le dit, sur le fait de laisser le temps de gouverner et de s'appuyer sur la volonté politique de la nation, et donc du peuple. C'est-à-dire qu'il y a au cœur de cette souveraineté, le concept de, au cœur de cette Constitution, le concept de souveraineté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie sans souveraineté nationale et souveraineté du peuple. Donc c'est ça le cœur de la Ve République. Or, les institutions, pour cela, ont été pensées comme solides. Aujourd'hui, cette solidité s'est retournée contre le peuple. Et c'est cela qui est très dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solidité des institutions permet à un pouvoir délégitimé, à un pouvoir qui n'incarne plus la volonté politique de la nation, de se maintenir à peu près en replâtrant. Et les différentes distorsions qui ont eu lieu à travers le passage au quinquennat, à travers les pratiques gouvernementales, l'inversion du calendrier, tout ça ne fait que permettre de solidifier, d'ossifier cela. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, nous avons petit à petit des gouvernants qui ont décidé eux-mêmes de renoncer à cette souveraineté, qui ont décidé d'appliquer, de ne pas appliquer la politique qui leur dictait le peuple, mais d'appliquer la politique que leur dictaient des grands intérêts et des idéologies. Et donc, les institutions ne servent plus à traduire la volonté du peuple.
Toutes les républiques et les démocraties sont censées reposer sur la souveraineté du peuple. Le problème de cette Ve République, c'est que dès l'origine, contrairement à ce que dit d'ailleurs Emmanuel Macron dans sa phrase, c'est une république de circonstances. C'est une réponse à une circonstance historique donnée, taillée sur mesure pour un personnage historique donné. Et contrairement, par exemple, à la Constitution américaine, qui est le projet d'une collectivité pour s'inscrire dans un temps extrêmement long, la Ve République, c'est une réponse à l'immédiateté, justement. À l'immédiateté de la crise qui a permis le retour au pouvoir du général de Gaulle. Et donc, depuis ce moment-là, depuis la création de la Ve République et la disparition du général de Gaulle, eh bien, on sent que les institutions sont inadaptées. Elles sont inadaptées pour les autres personnages que le général de Gaulle. Et donc, il y a eu comme ça cette tentative permanente de la réformer.
On peut dire au contraire qu'elle a été suffisamment plastique, cette constitution.
Elle a été suffisamment plastique pour créer à chaque fois, toutes les fins de règne des présidents de la République sont des moments de morosité, de frustration, de colère, où les gens en veulent à mort au roi, pour une raison très simple. C'est que, une fois qu'on vote dans la Ve République, eh bien, pendant 7 ans auparavant, 5 ans, parce qu'on a senti que c'était compliqué à gérer, eh bien, on n'a plus le droit à la parole. C'est une république, fondamentalement, qui ressemble à une monarchie élective. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, au début, il y a une forme d'enthousiasme, puisqu'on est extrêmement content d'avoir un nouveau prince qui a les moyens d'agir. Mais très vite, on se rend compte qu'une société, c'est complexe, qu'il y a des contradictions, qu'il y a des débats. et ces débats, ils trouvent pas de débouchés.
Natacha.
Je ne dirais pas tout à fait les choses comme ça. D'abord, la Ve République n'est pas née de circonstances historiques, puisqu'elle a été pensée par De Gaulle avant la simple circonstance de son retour au pouvoir. En revanche, là où je suis d'accord, elle a été pensée pour un homme, qui est le général De Gaulle, qui avait une vision historique de ce qu'était la France et de ce qu'elle devait continuer d'être. Et c'est là la grande différence. C'est-à-dire que De Gaulle a conçu cette constitution pour des présidents de la République qui choisiraient de présider. Or, ça n'a plus été le cas après lui, et en particulier à partir de Valéry Giscard d'Estaing, qui a été le premier à expliquer que comme la France pesait 1% de la population mondiale, finalement, elle ne devait pas peser plus sur la marche du monde que 1%. Et à partir de là, on a des présidents qui renoncent. Donc, ils sont de faux monarques. Ils sont des monarques qui n'ont aucune possibilité de changer les choses. Le principe de cette République, c'est tout de même que le président est l'émanation de la volonté du peuple et que ses décisions vont changer la vie des gens. À partir du moment où vous décidez qu'il y a des instances extérieures, qu'il y a des marchés qui ont prise, à partir du moment où vous décidez par exemple que la dette est détenue par ces marchés, vous n'avez plus aucune prise sur
donc
les événements.
Donc vous ne critiquez pas le présidentialisme comme par exemple pourrait le faire...
Je pense qu'il n'est plus adapté aujourd'hui. Justement parce qu'on a fait en sorte qu'il ne serve plus à rien, qu'il soit vidé de sa substance.
Mais c'est plutôt une bonne nouvelle que le président ne fait pas tout ce qu'il veut.
Une constitution, c'est fait pour supporter la médiocrité des gens qui prennent le pouvoir. C'est-à-dire que il y a des présidents américains, on en a quand même le témoignage aujourd'hui, extrêmement médiocres par moment. Eh bien, la Constitution, on va pas la changer parce que le président est médiocre, parce qu'elle est pensée pour pouvoir supporter la médiocrité. Le problème de la Ve République, c'est que De Gaulle, il a fait une constitution en pensant qu'il y aurait De Gaulle qui occuperait le poste de président. Alors quand il n'y a plus De Gaulle, eh bien on se rend compte qu'elle est inadaptée, mais elle est pas, c'est pas simplement le problème de l'époque ou du temps, c'est le problème d'une pensée qui croit qu'on peut dupliquer le même homme à l'infini.
Mais Raphaël, les Américains n'ont pas renoncé à leur souveraineté, et c'est toute la différence.
Mais écoutez, l'Allemagne a une constitution et l'Allemagne ne parle pas de changer sa constitution tous les 15 jours. Donc et pareil pour le Danemark, pareil pour la Suède, pareil pour la Hollande. Donc il y a bien un problème français, c'est qu'en fait on a fait une constitution qui ne correspond plus aux aspirations démocratiques et aux aspirations au débat de la population. On peut pas dire j'incarne votre volonté à un temps T et ensuite pendant 7 ans désormais 5, je n'ai même plus besoin de vous consulter, j'ai
mais
même plus besoin de
débattre. C'est le principe d'un
mandat électif.
Pas contradictoire ce mandat électif. Une assemblée, Ali, une assemblée, c'est des forces qui débattent, qui discutent, qui évoluent. Là, c'est un homme qui est censé épouser l'air du temps.
Je crois que vous diagnostiquez mal le problème, parce que ce qui, aujourd'hui, désespère les citoyens et les détourne de ce fameux monarque, ce n'est pas le fait que pendant 5 ans, il ne les consulte plus, même si je pense qu'en effet, il faut réinsuffler une démocratie plus vivante. Ce qui les désespère, c'est que pendant 5 ans, il ne fait pas ce pour quoi il a été élu, ou ce que traduisaient les aspirations du peuple.
Emmanuel Macron, il applique son programme, les gens sont frustrés.
Pardon, là vous savez très bien, et on en a suffisamment débattu ici, qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu pour son programme, mais parce qu'il avait en face de lui Marine Le Pen.
Et donc la Ve République lui donne tous les pouvoirs.
Donc la Ve République, et c'est bien pour ça que je dis qu'elle pose problème aujourd'hui, lui donne tous les pouvoirs. C'est pour ça que je ne défends pas la Ve République aujourd'hui. Je vous explique seulement
que la distorsion est née de l'abandon de souveraineté. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que le président ne fait pas ce qu'il veut, que le césarisme a des limites.
Il ne fait pas ce qu'il veut parce qu'il adhère à une idéologie qui est celle du libre-échange, qui est celle de la dérégulation, qui le prive du minimum de pouvoir qu'il pourrait avoir. Mais c'est tout. Il a décidé d'être impuissant.
On est d'accord sur la critique de cette adhésion et sur la décision d'être impuissant, mais simplement, il y a un problème avec les institutions. Là, on parle de la Ve République, et ce problème, c'est qu'en fait, quelqu'un qui est élu par 24% de la population peut croire qu'il incarne la France pendant 5 ans.
Au premier tour.
Oui, au premier tour. Mais ça veut dire que les gens qui adhèrent à son projet, c'est cela. Et ensuite, il y a un pouvoir exorbitant. Il y a un autre problème. C'est... On parle aujourd'hui de Matteo Salvini en Italie, par exemple. Mais imaginez que quelqu'un avec une idéologie antidémocratique prenne le pouvoir dans le cadre des institutions de la Ve République. C'est pour ça que cette constitution est mal pensée. C'est qu'en réalité, une constitution doit nous protéger des diables.
Non mais,
quel diable prend le pouvoir en France, eh bien, je vous garantis que ça sera plus compliqué avoir des checks and balances.
Si Emmanuel Macron ne fait que 24% au premier tour, et encore c'est beaucoup moins sur les inscrits, aux législatives 14,5% des inscrits, c'est bien parce qu'il y a des gens qui se sont désaffiliés de la démocratie, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne votent plus, qu'en général ce sont les classes populaires, parce qu'on a rétabli une forme de suffrage censitaire, sans le dire. Pourquoi ? Parce que les politiques ne jouent pas leur rôle de protection des classes populaires et des classes moyennes. Donc c'est ce n'est pas seulement le problème des institutions. Oui, mais ces institutions ne fonctionnent plus parce qu'elles sont tenues par des hommes qui adhèrent à une idéologie qui, de toute façon, s'assied sur les institutions, se fout de la volonté populaire.
On répond sur les institutions.
Non, parce que c'est lié.
Chapitre-là, vous souhaiteriez une sixième république, Natacha ?
Ça ne veut rien dire, une sixième république. Quelle sixième république ? La sixième république qui ressemblerait à la quatrième, ou une sixième république qui inventerait un nouveau rapport entre le président, le parlement ? Ça ne veut rien dire. Sixième république en soi, ça ne marche pas. La cinquième république a atteint ses limites, elle ne fonctionne plus. Mais c'est l'ensemble de la position des gouvernants français vis-à-vis de toutes les institutions européennes, internationales, qu'il faut repenser pour pouvoir avoir une constitution correcte.
Raphaël ?
Vous voulez que le peuple soit à nouveau entendu, il faut donc que les institutions lui permettent de participer plus activement au gouvernement. Donc oui, il faut un changement de république. Moi, je ne suis pas un fétichiste du nombre ou un fétichiste du nom, mais il va falloir un changement dans les institutions, car contrairement à ce qu'on dit, c'est que les institutions sont importantes. Ça ne suffira pas,
mais
si on veut que la démocratie progresse en France, il va bien falloir le traduire de manière institutionnelle à un moment donné.
Non, mais ça, on est d'accord, mais ça ne suffira pas.
Ça ne suffira pas.
Le grand face-à-face. Ali Badou sur France Inter.
Le grand face-à-face continue avec le débat. Fracture française, la France périphérique, le crépuscule de la France d'en haut. Ce sont quelques-uns de ses livres. On lui doit notamment cette cartographie du vote des classes populaires qui s'est imprimée dans nos têtes et l'enracinement du vote FN dans les zones périurbaines. Il analyse la vague populiste contemporaine et ce qui va avec, un vent de panique des bourgeoisies des pays occidentaux dans un essai qui vient de paraître chez Flammarion. Le titre No Society, comprendre la société, ça n'existe pas, référence à une phrase de Margaret Thatcher en 1987 et une phrase qu'auraient reprise à la lettre les classes dominantes d'aujourd'hui, celles qui auraient fait sécession dans nos sociétés. Le géographe Christophe Guillouis est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, Natacha et Raphaël sont à mes côtés pour engager le débat avec vous. Natacha, vous êtes citée dans ce livre et c'est vrai que pas grand-chose vous oppose de ce côté-ci de la table.
On ne sait jamais. Bon, disons qu'il y a une analyse commune du fond des dynamiques sociales effectivement en France et dans les pays développés, oui.
Mais donc on compte sur Raphaël pour porter le dissensus et porter le fer pour débattre évidemment de cette thèse ou la nuance, par exemple, d'un mot Natacha pour présenter le livre de Christophe Guillouis.
Je pense que c'est une analyse absolument essentielle sur la dislocation des classes moyennes aujourd'hui. La désindustrialisation a détruit les classes populaires des pays occidentaux. Nous sommes aujourd'hui dans la phase où ce sont les classes moyennes qui sont attaquées et qui sont attaquées alors qu'elles étaient le soutien de la démocratie. Elles sont le pilier, ce qui permet à une communauté politique d'exprimer sa volonté. Donc l'analyse me semble tout à fait juste puisque nous en voyons les conséquences absolument tous les jours.
Raphaël ?
Non, je suis d'accord avec l'analyse, comme j'étais d'accord avec la première analyse sur la France périphérique. Et c'est le cœur même de la démocratie qui est mis en cause par les évolutions socio-économiques. C'est la disparition, en fait, de cette classe qui a porté la démocratisation du monde en Occident, à travers tout l'Occident, d'ailleurs pas spécifiquement en France. Et donc c'est un livre, moi, qui me parle parce qu'il nous oblige à penser la crise politique actuelle au-delà de la simple récrimination morale. Ceci étant dit, puisque on dépasse la moraline et la condamnation historique ou...
Enfin, on la dépasse pas toujours.
Ou moraliste, non mais autour de ce plateau.
Oui, d'accord. À vous lire Christophe Guillouis, on la dépasse rarement.
Non mais autour de ce plateau. Par contre, moi ce qui me dérange, c'est effectivement, c'est le moteur, cette disparition de la classe moyenne et la paupérisation de la classe moyenne, la relégation géographique et sociale est le moteur de l'explosion populiste. Mais ce qui me dérange, c'est votre lecture complètement non axiologique, en réalité, de cette explosion populiste, que vous présentez comme une traduction démocratique, un essor démocratique, en traduction, en fait, politique d'un constat social et sociologique et géographique. Et vous niez la prégnance, en fait, des idéologies. C'est-à-dire que si, moi, j'ai un débat à avoir avec vous, c'est cette vision désidéologisée, en fait, des Salvini, des Trump, des Zemmour ou des Le Pen. Et j'aimerais qu'on débatte de ça.
Je te demandais à quel Christophe moment le nom de Zemmour.
Ah non, mais allez, il est dans votre liste.
Il est dans votre livre. Justement, il figure dans cette liste que vient de faire Raphaël.
Bien sûr.
Aux côtés de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon et de Pépé Grillo, par exemple.
Bien sûr. L'idéologie existe. Je ne suis pas naïf. Nous portons tous des idéologies. C'est là, c'est présent, évidemment. Zemmour a une idéologie, Salvini a une idéologie, évidemment. Ma question n'est pas là, en réalité. Ce qui est vraiment aujourd'hui frappant, c'est que toutes les questions sociales, mais aussi politiques, qui s'imposent aujourd'hui, elles ne s'imposent pas d'en haut. Je ne crois absolument pas à l'influence d'un Zemmour. Je ne crois absolument pas à l'influence d'un Salvini. Alors évidemment, là, vous allez me dire, c'est une façon de se déporter ailleurs que dans le débat idéologique. Mais je le crois sincèrement. Pourquoi ? Parce que précisément, il faut revenir à l'essentiel. Alors Christopher Lasch avait parlé de la sécession des élites. C'est vieux ce livre, hein. Je crois que c'est la fin des années
94.
On est allé encore plus loin. C'est-à-dire que c'est pas seulement les élites. D'ailleurs, je parle pas spécifiquement des élites. C'est vrai que c'est un mot tiroir. Bon, on peut mettre tout le monde là-dedans. C'est pas très intéressant. Les élites n'existent. Un système n'existe que s'il est soutenu par un minimum de la population. Et ce gros minimum, c'est quand même à minima, donc les catégories supérieures, enfin les gens qui sont encore intégrés économiquement. Mais vous avez un processus de sécession aujourd'hui de l'ensemble des bourgeoisies, de droite comme de gauche. C'est du temps long, hein. Là encore, on n'est pas sur... Et un processus, dans le même temps, de désaffiliation des catégories populaires, ça a commencé par là, puis de cette petite classe moyenne, parce qu'on voit bien que nous sommes dans le temps, ce que j'appelle le temps de la sortie de la classe moyenne, hein. Ça a commencé avec les ouvriers, d'ailleurs on nous avait dit, les ouvriers c'est pas très très grave, c'est la marge, et puis en gros avec quelques subventions, on va essayer de s'en sortir, et puis de la formation, et puis sauf qu'après les ouvriers on a eu les paysans, et après les paysans on a eu le monde rural, et puis après on a eu les petits fonctionnaires, et puis après on a eu d'autres territoires que les zones industrielles, ruraux, des petites villes, les villes moyennes, hein. On en a parlé il n'y a pas très très longtemps. Et ces marges forment un tout. Ça forme ce que j'appelle le monde d'en bas. Alors pourquoi je dis le monde d'en bas ? Alors bon, c'est vrai que j'ai une lecture un peu marxiste des choses, mais
oui,
c'est très important, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a une rupture qui n'a pas été provoquée par le monde d'en bas. Je le dis toujours, les classes populaires ont joué le jeu de la mondialisation. Ouais. Elles ont joué le jeu de l'Europe. Les faire porter aujourd'hui, précisément ces idéologies de repli, etc.
Qui viennent d'ailleurs de l'élite, les idéologies.
Oui, mais bien sûr, mais c'est pas, elles font un constat. Elles font un constat, un diagnostic social, culturel de leur propre situation aujourd'hui. La difficulté, et effectivement, quand vous me parlez d'idéologie, elle est là, c'est que aujourd'hui, on a des catégories populaires, moyennes, qui n'entendent absolument plus le monde d'en haut, qui n'écoutent plus le monde d'en haut. D'ailleurs, quand vous avez un président de la République qui passe à la télé, il n'est même pas écouté, les audiences télé se cassent la figure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un processus de temps long, alors qu'on voit dans l'abstention, aussi dans le vote populiste, etc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens n'attendent plus rien, mais y compris d'un Zemmour. C'est-à-dire que les gens ne se réveillent pas un matin en disant « Tiens, je vais aller acheter le livre de Zemmour et hop, je bascule dans une idéologie. » Non, elles font un constat réel de la situation.
Mais d'un mot, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous avez dans votre livre et dans votre tête l'idée que, puisque les populistes arrivent à convaincre les classes populaires, eh ben les populistes ont raison ?
C'est un peu le
sentiment qu'on a quand
oui,
on
Oui, alors on peut dire ça dans ce sens-là. On peut dire les choses différemment. Les populistes sont des gens qui simplement captent aujourd'hui les aspirations des classes populaires que les partis traditionnels ne veulent pas entendre. C'est dans ce sens-là.
Donc, par exemple, la xénophobie, le repli sur soi, le refus de l'autre, pour prendre ces exemples-là,
si vous me dites, est-ce qu'ils ont raison d'être xénophobes ? Est-ce que la xénophobie est bien ? C'est comme si je vous posais la question, êtes-vous fasciste ? Pensez-vous que le fascisme, c'est quelque chose de raisonable ? Évidemment, on va tous répondre non.
Il y a des fascistes en Europe.
C'est pas ça la question.
On va tous répondre non, pas forcément en Allemagne, pas forcément en Italie aujourd'hui.
De quoi nous parle le vote populiste ? Il nous parle d'une sociologie, il nous parle d'un territoire. La sociologie, elle est très identifiée.
Et il nous parle c'est
bien sûr. Oui, mais bien sûr, mais je, ça part de catégories très précises.
Non, mais dire, là,
juste pour expliquer Raphaël, ma question, par exemple, quand on déporte le débat, quittons les populistes et on déporte le débat qui a eu lieu entre sociologues d'ailleurs sur la question du terrorisme, où on nous expliquait qu'il fallait pas expliquer sociologiquement l'émergence de l'idéologie islamiste parce que ça niait l'idéologie en tant que telle et que ça finissait par justifier. Or, moi, l'impression que j'ai, mais que j'ai souvent en écoutant Natacha aussi, que j'ai en vous lisant et que j'ai en écoutant Natacha, c'est qu'en fait, puisque les bobos de gauche, en gros, se contentent de la confrontation idéologique et de la restauration de tabous moraux, il y a chez vous la tentation de les évacuer complètement. Et de dire non, il y a une dimension beaucoup plus forte, qui est la dimension sociologique, la dimension géographique, la dimension sociale, et qui est zappée. Donc il faut la restaurer. Moi, je suis totalement d'accord avec votre analyse en plus là-dessus. Mais simplement, il ne faut pas nier la confrontation politique ou la confrontation idéologique. Je veux dire, Salvini, c'est pas simplement l'expression d'une colère sociale.
Alors,
c'est
une idéologie
de conquête politique.
On peut avoir un débat idéologique avec Salvini, c'est pas le problème. C'est d'ailleurs il y a des partis politiques qui répondent à Salvini. Il y a une confrontation démocratique qui se fait, je veux dire, y compris en France. Non, mais je veux dire, le débat populiste, mondialiste, tout ça existe. Je veux dire, Macron-Le Pen, il y a bien eu un débat. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai rêvé. Donc la question n'est pas la mise en scène du débat démocratique. Elle est de fait effective. Est-ce que oui ou non la démocratie est là pour servir, moi je pensais que c'était ça, les intérêts du plus grand nombre et spécifiquement des plus modestes. Moi je pensais naïvement que c'était ça. Bon, on a effectivement un agenda qu'on n'avait pas prévu. Moi par exemple, dans les années 80-90, je ne travaillais que sur la question sociale. Je vous assure, j'étais peinard. J'étais adoré de tous mes potes de gauche, etc. Je pouvais faire tous les débats, c'était à qui allait sur le discours le plus social possible, etc. C'était très confortable. Sauf que je travaille tous les jours sur la question catégorie populaire, etc., notamment en banlieue, etc. Bon, bref, je suis bien obligé de constater qu'à un moment donné, soit tu travailles sur les classes populaires dans leur ensemble et dans leur complexité, hein, c'est-à-dire que ça va du social à l'identitaire, parce que là encore, il y a un faux débat. C'est pour ça que ce débat idéologique me gêne. Il y aurait d'un côté les identitaires et de l'autre ceux qui seraient du côté du social, hein, ce que vous me disiez sur l'idéologie islamiste. C'est complètement débile, pardon, mais nous sommes des individus complexes, tous, je veux dire, classe populaire, catégorie supérieure. Les individus se déterminent sur des sujets multiples. Le chômage, le taux de pauvreté, leur niveau de vie, etc. Mais aussi leur environnement culturel, mais aussi ce qu'ils ont envie pour l'avenir, pour leurs enfants, pour eux-mêmes, etc., etc. Donc nous, ils sont, eux, dans cette complexité. Et je rappelle quand même l'extrême calme et subtilité des classes populaires depuis 30 ans sur toutes ces questions sensibles de l'immigration, de l'islam, j'en passe et des meilleurs. Que je sache, nous ne sommes pas dans un pays à feu et à sang, il n'y a pas eu de guerre civile. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après chaque attentat, j'ai pas vu des mosquées qui ont cramé, etc., etc. Ouais. Les gens sont d'un calme absolu. Pourquoi? Parce que un individu, qu'il soit en haut ou en bas, a priori n'a pas envie de guerre, de violence, etc., etc. Il veut simplement ce que souhaite d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est très important aussi de, on peut parler du populisme en Europe, mais il faut ramener toutes ces questions-là à l'échelle presque mondiale. Moi, ce que j'essaie de faire dans cette question du rapport à l'autre, qui est la question dynamite, hein, vraiment, oui. En gros, ce que vous me disiez tout à l'heure, es-tu raciste ou pas raciste, xénophobe ou pas xénophobe, là, c'est même plus la peine. C'est pour ça que je ne vais pas dans compris, c'est juste une petite provocation, mais ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, on le voit, les gens sont d'une extrême subtilité et on a des débats idéologiques qui ne le sont pas. C'est-à-dire que c'est très bizarre, c'est que en fait, ceux qui sont là pour calmer le jeu ne le calment pas.
Ils sont d'autant moins subtils, ces débats, qu'ils aboutissent à une sorte de piège idéologique. C'est-à-dire que votre analyse repose, et ce n'est pas anodin d'avoir choisi ce titre, repose sur le fait que vous observez les dégâts petit à petit de la dérégulation économique qui a divisé le travail sous l'effet de la mondialisation. C'est tout ça que vous nous racontez. Et petit à petit, la façon dont on choisit de dire que, finalement, le fait qu'il y ait un chômage de masse dans les pays occidentaux ne pose pas de problème du moment qu'on continue à faire consommer et à faire tourner la machine économique. Or, quand Ali a introduit l'émission tout à l'heure, il a dit que vous étiez un penseur influent. Influent, ça veut dire que votre concept de France périphérique a été repris partout. mais repris, mais totalement
partout.
Distordu, totalement vidé de sa substance.
Oui.
Et nous arrivons à ce problème majeur qui est que on vous reproche aujourd'hui d'être cité par Le Figaro, c'est-à-dire par la presse de droite. Donc vous ne seriez plus de gauche.
Non, et alors d'extrême droite.
Oui, et d'extrême droite. Mais si on vous lit, vous disiez tout à l'heure, votre analyse est marxiste. Donc est-ce que vous êtes dans cette presse?
Ah, est-ce qu'elle est marxiste?
Non,
je suis pas sûr.
Vous n'êtes pas accepté dans l'autre presse de l'autre côté, tout simplement parce que vos analyses ne rentrent pas dans ce cadre-là.
Oui, alors c'est moins caricatural que ça, parce que bon,
j'ai résumé.
Des gens à gauche que je vois régulièrement, etc.
Je pense aussi, oui.
Et puis pour bon, certaines personnes à droite, je suis quand même un gauchiste qui est quand même assez anti-libéral, donc je veux dire, ça ne marche pas non plus. Enfin, on peut à l'infini. La vraie difficulté, c'est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on clive question sociale, question culturelle, c'est foutu. C'est essayons d'amener de la complexité.
Mais justement, parce que vous-même dans votre livre, bon, on peut vous reprocher de désigner alors un ennemi. Tout à l'heure, quand Raphaël parlait de Bobo, on peut le citer. C'est une figure parmi d'autres d'ailleurs et qui ne résume pas les bourgeoisies dont vous parlez et ceux du monde d'en haut. Mais est-ce que vous n'en faites pas justement un ennemi de classe du bourgeois, justement?
Oui, alors,
celui qu'il faut désigner à la vindicte populaire.
Alors, déjà, si vous m'avez lu, vous avez vu que j'ai effectivement... les bobos font partie de ce monde en haut, mais il y a aussi la bourgeoisie traditionnelle.
Ouais, bien
d'ailleurs,
sûr.
D'ailleurs les bourgeoisies ont fait front commun avec Macron. Hein, je veux dire, faut quand même. Moi, je crois beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de postures là-dedans. Hein. Je veux dire, on l'a vu d'ailleurs pendant les élections. Vous aviez la bourgeoisie de gauche avec un vernis social, et puis la bourgeoisie de droite avec un vernis identitaire. Ils se sont tous rassemblés. Hein. Versailles, Manif pour tous, a voté Macron en masse. Hein, je veux dire, donc,
mais vous désignez des ennemis de classe.
Oui, alors, si vous voulez, le grand phénomène le grand processus de la mondialisation réinstalle le conflit de classe. C'est-à-dire qu'on pensait, effectivement, le concept de classe moyenne, c'était deux Français sur trois de Giscard, c'était en gros, on est tous classe moyenne, de l'ouvrier au cadre supérieur, etc., puis on est dans une phase d'ascension sociale. Tout ça a implosé, a explosé ces 30 dernières années, et on a une recomposition de classe, avec une nouvelle bourgeoisie, très grande, très vaste, très diverse, etc., et un nouveau prolétariat. La grande difficulté, c'est que ce prolétariat n'a pas...
60% de la population, c'est
oui,
ce que
non, mais ce nouveau prolétariat n'a pas conscience d'être un prolétariat. Mais par contre, et c'est pour ça que vous avez des catégories très très différentes là-dedans, vous avez du petit paysan, qui a été à droite, hein, qu'on classait à droite, l'ouvrier qu'on classait à gauche, etc., mais... Petit à petit, ces gens ont une perception commune de ce qu'est la mondialisation. Et la difficulté, c'est qu'ils ne sont en réalité représentés par personne. Parce qu'on parle des populistes, mais les populistes, c'est quoi? C'est se servir, par exemple, du Brexit pour dire quelque chose. Mais les gens vont choper tout ce qu'ils peuvent. Actuellement, l'offre politique est très faible. Moi, ce que je voudrais, c'est que tous ces sujets soient repris par tous les partis, de gauche comme de droite.
Non, mais bien sûr, et encore une fois, moi, je suis pas du tout sur une ligne qui nierait la pertinence des outils que vous donnez dans le débat public, pas du tout. Simplement, je pense que vous n'êtes pas marxiste pour une raison très simple, c'est que justement, chez Marx, il y avait cette analyse en classe sociale, mais il y avait la perspective idéologique, on peut critiquer, et donc la coloration socialiste de l'horizon. Quand vous analysez le populisme, vous analysez un mouvement post-socialiste. Et donc vous abandonnez cette ambition idéologique. L'autre question, c'est quand même si on prend le vote aujourd'hui de la Ligue, qui est le mouvement politique le plus structuré sur cette aile populiste. C'est pas simplement les déshérités quand même. C'est là que je suis pas d'accord avec vous sur l'idéologie. C'est que l'idéologie permet de structurer des strates sociales différentes. C'est les petits entrepreneurs, c'est des gagnants de la mondialisation aussi.
Alors,
dans le nord de l'Italie, qui participent d'un essor post-fasciste, on peut l'appeler comme on veut.
La chaîne n'a pas l'air d'accord.
Non, alors, ce ne sont pas. Enfin, pardon, je vais laisser répondre Christophe Guillouis, mais ce sont pas que les gagnants de la mondialisation, les petits patrons.
Je dis donc, ce n'est pas que des perdants.
Déjà,
Christophe Guillouis.
Dans tout, il y a tout.
Dans tout, il y a tout.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que dans un électorat, vous allez retrouver des gens riches, des gens pauvres, des gens moyens, etc. Il y a quand même une diversité, effectivement, dans la Ligue du Nord. Vous avez effectivement tous ces petits patrons, d'ailleurs, qui ont été très fracassés par l'arrivée de l'euro, etc. Donc ça, c'est encore un point important. Mais le gros de la troupe de la Ligue du Nord, quand vous regardez... effectivement, d'ailleurs, on le voit très bien, les mouvements populistes en Europe, hein, il y a des pays très riches, il y a des pays très pauvres, ou moyennement pauvres, donc on voit bien des contextes nationaux très très différents. Sauf que, quel que soit le pays, quelle que soit la région, on va retrouver ces catégories modestes. C'est-à-dire que,
les mêmes causes produisent les mêmes effets
l'Italie.
Partout.
Alors l'Italie, déjà, c'est deux populismes. Hein, un populisme de gauche, un populisme de droite. J'allais dire, mon Italie périphérique, c'est le Mezzogiorno. Mais à l'intérieur de l'Italie riche, très riche, hein, l'Italie du Nord, vous allez retrouver cette stratification sociale. C'est-à-dire que ce qui porte l'essentiel de la Ligue du Nord aujourd'hui en Italie du Nord, dans cette région riche, ce sont malgré tout les catégories modestes, ce sont malgré tout les catégories ouvrières. Donc effectivement, il y a cette stratification.
Les bastions, c'est Varese, c'est les villes les plus riches.
Alors laissez, hein.
Mais quand vous regardez la sociologie, ça se clive à nouveau.
Natacha.
Alors, la sociologie et la géographie. Parce que ce qui est intéressant dans votre analyse, c'est aussi que les données statistiques, en fait, faussent totalement notre perception. Vous disiez tout à l'heure, il y a à peu près 60% de la population aujourd'hui qui est de classer dans ce que vous appelez cette France périphérique. Or, ça n'apparaît absolument pas, ce qui permet de ne pas traiter le problème. C'est-à-dire que des villes qui sont des préfectures, des sous-préfectures, qui sont en déshérence totale, qui aujourd'hui sont en train de se vider de leur population, qui sont en train de perdre totalement tout leur tissu social, sont classées comme quasiment des métropoles par l'INSEE, par tout ce qui permet de stratifier. Donc, ça nous empêche de voir une chose, et j'en viens à ma question, ça nous empêche de voir comment on peut revivifier ces territoires. Et quand Raphaël vous posait la question de l'horizon qui peut être le vôtre. Vous disiez qu'il n'y a pas de traduction politique pour l'instant des aspirations de ces franges de la population. En effet, comment fait-on pour reconstruire, et je pense que c'est par l'économie qu'on peut le faire, comment fait-on pour reconstruire des territoires, donc une vie, du lien social, et pour ensuite revivifier tout cela ?
Christophe Guillouis.
Déjà, pas de solution unique, un modèle qui viendrait d'en haut, etc., etc. Moi, ce que j'observe en allant justement
sur ces territoires...
Oui,
vous n'êtes pas révolutionnaire. Et en ce sens, vous n'êtes pas marxiste.
Non. Alors, d'ailleurs sur j'ai une lecture marxiste. Je ne suis pas marxiste au sens idéologique. Vous avez raison. C'est un outil. Et précisément, France périphérique, c'était justement créer un outil. Un outil parce que vous avez des typologies. Et là, je reviens sur la typologie de l'INSEE, etc., qui tend à marginaliser des territoires qui ne le sont pas. Parce qu'évidemment, si vous dites le problème, c'est les ruraux. Bon, ça fait 10%, 15%, bon, c'est pas très très grave. Ou le problème, c'est les banlieues, c'est pas grand-chose. Ou le problème, c'est telle petite ville. Bon, ce ne sont que des marges, mais sauf que additionné, ça forme un tout. Et sur quoi faire ? Alors évidemment, c'est la grande question. Alors moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est quand j'encontre des élus, alors je précise des élus de gauche et de droite. Les types sont plutôt bons. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir par exemple un président de conseil départemental, etc., qui ne connaît pas son territoire, qui ne sait pas que dans telle commune il y a tel taux de chômage, que telle famille va très mal à tel endroit, etc., etc. Et mieux, ce sont des gens qui ont des idées pour leur territoire, des idées de développement. Sauf que le développement, ça se fait comment, quoi ? Ça se fait en mettant autour de la table des entreprises privées, mais aussi l'État, et puis avec des gens qui ont des idées. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que, et c'est aussi le sens de la réforme territoriale, et c'est là qu'on voit que la réforme territoriale, il y a une idéologie derrière. On vide de sa substance les territoires. Par exemple, il y a la question du département. L'objectif, à terme, c'est de faire disparaître le département. Moi, je suis pas un départementaliste dingue. Je suis pas attaché, comme ça, à cette structure-là. Sauf que le département, c'est des équipes, en général, qui, d'ailleurs, viennent du département. Et c'est des compétences que vous ne retrouvez absolument pas en région. Moi, j'ai travaillé pour des régions et pour des départements. La grande différence, c'est que en région, vous allez retrouver les technos que vous avez dans les ministères, en gros. Et alors, ça va pas s'améliorer avec les méga régions qu'on est en train de créer. Sur les territoires, il y a effectivement des solutions. Il faut donner encore plus de compétences aux élus. Et on fait exactement l'inverse.
Gérard Collomb le dit. Et Gérard Collomb revient justement dans sa bonne ville de Lyon. En attendant, il y a aussi, alors à l'autre bout de la chaîne, la création que vous imaginez d'une principauté de Paris, de la cité-état de Londres ou du duché de Californie pour dire à quel point ces régions riches pourraient véritablement se détacher complètement du reste de la population. Raphaël ?
Non, mais j'allais rebondir sur les départements. Donc là, on est parti sur les cités-états.
Oui, les cités-états.
Les cités-états qui, d'ailleurs, auraient pu être une des voies de construction de la politique moderne. Les cités italiennes, et à la place, on a pris le chemin de l'état-nation.
Oui, enfin, sauf que là, ce sont les villes-mondes telles que les rêves Anne Hidalgo, c'est-à-dire sans arrière-pays. C'est pas exactement les
Gênes, Florence, etc., c'est déjà des villes-mondes. Mais c'est d'ailleurs là où est né le capitalisme mondialisé. Non, sur les départements, justement. Est-ce que l'idée,
parce que l'émission touche à son terme.
Pardon, mais est-ce que l'idée, c'est pas de redonner du pouvoir à la démocratie locale, mais pas à l'échelle du département, qui est déjà une courroie de transmission du jacobinisme en réalité. Donc, quand on vous lit, moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est un outil critique et que de cela, on peut tirer une politique quasiment conforme au pacte girondin qui a été promis et qui a été abandonné, mais d'une idée d'une revivification de la démocratie locale et d'une réinsertion des classes paupérisées par les outils démocratiques, justement pour appliquer le reprendre le contrôle qui a été volé par le Brexit.
Mais, c'est-à-dire que
vous n'allez pas dire que vous êtes d'accord avec Raphaël.
Bah, si, c'est-à-dire que non, mais prendre en compte, comment dire, le diagnostic des classes populaires, ça marche partout. Je veux dire, ça marchera partout. La démocratie, je veux dire, c'est simplement. Moi, je termine quand même par une main tendue dans ce livre. Une société est saine et démocratique quand il y a un lien entre le haut et le bas. Je ne suis pas complètement débile. Je veux dire, hier, ça fonctionnait, notamment via le Parti communiste, etc. Pourquoi ? Parce que vous aviez un lien entre une intelligentsia, des intellectuels, etc. Et puis le monde d'en bas. Mais je veux dire, c'est pour ça qu'il y a une révolution culturelle.
Vous voulez aider les élites à mieux comprendre, à faire
ça passe aussi par une question économique. C'est-à-dire que revivifier les territoires, ça nécessite tout simplement d'y faire revenir de la vie économique, de l'emploi, des PME. Vierzon, Châteauroux, on peut en citer dans toute la France des villes comme ça. Elles ont avant tout été ruinées par une mondialisation qui les a mises en concurrence avec des pays qui n'avaient pas les mêmes normes.
Bien sûr, on ne fera pas l'économie d'une remise en cause du modèle, c'est évident.
No Society, la fin de la classe moyenne occidentale, c'est donc le titre de ce livre que vous publiez, Christophe Guilluy, chez Flammarion, en lieu et place du Conseil culturel de la semaine. Raphaël a une très bonne idée, il a proposé de choisir une chanson de Charles Aznavour. Alors laquelle avez-vous choisi, Raphaël ?
Moi j'ai choisi c'est pas du tout ma chanson préférée en termes d'esthétique et de goûts musicaux, mais ils sont tombés parce que je pense qu'il y a une mémoire arménienne, l'arrivée des Arméniens en France a été une chance immense pour la France, et l'expression de ce que la France fait de mieux. Ça a donné Manoukian et la Résistance, ça a donné Aznavour. C'est la France comme havre pour les gens qui ont été dépossédés d'eux-mêmes, de leur histoire, de leur peuple.
Les yeux ouverts d'effroi, le sang tombé, on invoque en leur Dieu.
Ils sont tombés. Vous, Natacha ?
Oui, il est vrai que c'est en cela que la France se revivifie, parce que Charles Aznavour nous montre qu'en s'appropriant la langue, en s'appropriant l'histoire d'un pays, eh bien, ceux qui arrivent font en fait un mariage absolument fabuleux. Mais parce qu'ils s'approprient la langue. Et ils s'approprient aussi l'universel. C'est pour ça que j'ai choisi une chanson qui, moi, me touche profondément, qui est Les deux guitares, parce que elle porte une mélancolie qui, à mon avis, touche n'importe quel être humain.
À dire vrai, je voulais la choisir. Et quand vous étiez première.
Et que vous êtes galant.
Et que je suis galant. Merci de le préciser.
Les deux guitares.
Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La la la.
Christophe Guilluy, ça c'est de la culture populaire au sens le plus noble.
Absolument. Alors j'ai pas pensé à Charles Aznavour, bizarrement.
Booba.
Mais non, je suis en train de lire. Mais alors finalement c'est assez connecté. Je suis en train de lire une grande saga suédoise qui s'appelle la saga des émigrants de Wilhelm Moberg. Toute cette épopée de ces paysans suédois partis au 19e siècle aux États-Unis. C'est magnifique.
Eh ben merci du conseil. Et merci d'avoir été notre invité, Christophe Guilluy. No Society, je le répète, c'est chez Flammarion. Natacha, Raphaël, à samedi prochain. Et nous serons en direct et en public des rencontres de l'histoire de Blois, où vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. Merci à Mathilde Klatt et Utishra Niti à la réalisation, Stéphanie Texier à la technique cette semaine, Maxime Ingrand. Et quant à moi, je vous dis à demain midi pour Questions politiques avec le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. À suivre, les secrets d'info de Jacques Monin, Parti socialiste, coulisses d'un naufrage. Ça va vous intéresser, Raphaël, ce sera dans quelques minutes.